chanter pour le Seigneur. En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.
Bonjour chers amis auditeurs et bonjour Martine.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous nos auditeurs.
Alors nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Chanter pour le Seigneur. Et Martine, quel est le thème et quel chant avez-vous choisi aujourd'hui ?
Devinez Emmanuel, vous l'avez dit à la fin de la dernière émission, eh bien oui, c'est la Pentecôte.
Tout à fait.
Alors la Pentecôte, Emmanuel, est une fête chrétienne qui célèbre un jour particulier, celui de l'arrivée sur terre de l'Esprit-Saint. Ce jour-là, les disciples du Christ, réunis à Jérusalem, reçoivent, selon la tradition, l'Esprit-Saint qui leur apparaît sous la forme de langue de feu, langue au pluriel. Ils n'ont plus peur de témoigner publiquement de Jésus. Sans jamais les avoir apprises, ils se mettent à parler les langues étrangères. La Pentecôte est un jour considéré comme le jour de naissance de l'Église chrétienne. Et je vous propose d'écouter tout de suite le Veni Creator, ou vient Esprit Créateur en français. Alors c'est un hymne grégorien composé au IXe siècle. La structure en sept quatrains fait sans doute référence aux sept dons de l'Esprit-Saint que sont la sagesse, le conseil, la force, la crainte, la piété, la science et l'intelligence. Alors, ce chant liturgique du rite latin a été traduit en français. Il existe d'ailleurs une traduction liturgique officielle. Il est donc chanté par les catholiques, aussi bien que par la plupart des autres églises chrétiennes. Et il a été repris par de nombreux et nombreux compositeurs. C'est d'ailleurs sans doute la prière au Saint-Esprit la plus célèbre.
Thank you.
Alors Martine, ma première question, quelle est l'origine de la Pentecôte ?
Alors la Pentecôte, Imanol déjà, est l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. Étroitement liée à Pâques et l'Ascension, elle naît en fait d'un miracle et marque la naissance de l'Église, comme je disais en débutant cette émission. À l'origine, la Pentecôte est aussi une fête juive. Parce que si les apôtres étaient réunis à Jérusalem, c'est qu'ils fêtaient la fête de Shavuot. Elle commémore le don de la loi à Moïse. Pas à n'importe quel moment toutefois. Exactement 50 jours après Pessah, la Pâque juive. Et si en hébreu Shavuot signifie fête des semaines, en grec ancien, qui se parlait aussi à Jérusalem, on disait Pentecosté, qui veut dire 50e jour après Pâques. Pour ce qui est de la tradition chrétienne, voici ce que rapporte la source extraite des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, dans la tradition juive, les langues de feu sont le symbole de la voix divine. Le texte, reconnu par toutes les confessions chrétiennes catholiques, orthodoxes, protestantes, ce texte note sans malice que beaucoup de témoins pensaient que les apôtres avaient bu. Étaient-ils pleins de vin doux ? Mais beaucoup s'étonnaient aussi de cette traduction simultanée avant l'heure. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Les apôtres et les Actes des apôtres affirment un peu plus loin, chapitre 2, verset 41, que ceux qui acceptèrent sa parole, celle de l'apôtre Pierre, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, ce qui forme historiquement le premier début de l'Église chrétienne. Alors, Marie et les apôtres étaient donc alors réunis avec une foule de fidèles pour célébrer cette Pâque juive de Shavuot qui commémore donc le don de la Torah par Dieu au peuple juif sur le mont Sinaï. À la suite de cet événement, les apôtres vont sortir du Cénacle, la salle où Jésus-Christ les avait réunis pour la scène, et se mettent donc à témoigner de la vie et de l'enseignement du Christ. Ils vont également commencer à baptiser les premiers chrétiens, faisant ainsi naître les communautés chrétiennes. C'est bien le début de l'Église. Lors du sacrement de la confirmation, les catholiques reçoivent l'Esprit Saint comme les apôtres le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après Pâques. Le front du confirmant est marqué avec une huile parfumée, le Saint-Crème, de la main de l'évêque. L'Ascension et la Pentecôte sont donc deux fêtes intimement liées. Selon les Actes des apôtres, Jésus avait annoncé à ses disciples le jour de l'Ascension qu'il recevrait une force. celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Une révélation qui intervient 10 jours avant la Pentecôte, lorsque les apôtres reçoivent l'Esprit-Saint au Cénacle. Les deux fêtes religieuses sont donc vraiment intimement liées et la Pentecôte, Immanuel, marque le couronnement de la période pascale, débutée le jour de Pâques avec la résurrection de Jésus.
Mais Martine, je retiens que Pentecôte se déroule 50 jours après la Pâque, c'est ça ?
Absolument. La Pentecôte, Immanuel, est avec la fête de la Pâque et celle des Tentes, l'une des 3 grandes fêtes de pèlerinage d'Israël, durant lesquelles chacun devait se présenter devant le Seigneur au lieu choisi par lui pour faire habiter son nom. On retrouve ceci dans le Deutéronome chapitre 16, verset 16. Et à l'origine, c'était donc une fête des moissons. Mais la Bible en parle aussi comme de la fête des semaines, 7 semaines après la Pâque. On retrouve ceci dans l'Exode chapitre 23, verset 16, le livre des Nombres chapitre 28, verset 26, dans le Lévitique chapitre 23, verset 16. Elle prit plus tard, probablement vers le second siècle avant notre ère, le sens d'une commémoration du don de la loi au Sinaï. Le mot « Pentecôte » signifie en effet 50 et renvoie donc à l'événement antérieur dont il marque le 50e jour, c'est-à-dire la Pâque. D'après le livre de l'Exode, l'Alliance avait été conclue 50 jours après la sortie d'Égypte et donc après la Pâque. Celle-ci commémorait la sortie de l'esclavage d'Égypte. Dans le don de la loi, le peuple sorti d'Égypte était constitué comme peuple de l'Alliance, peuple de Dieu. Les deux fêtes, de la Pâque et de la Pentecôte, sont donc liées. Pour mieux comprendre le récit de Luc au chapitre 2 des Actes des Apôtres, il faut relire le texte qui est en quelque sorte le modèle dans l'Ancien Testament au livre de l'Exode, celui qui dit le don de la loi dans le tonnerre et le feu au Sinaï, Exode chapitre 19. Luc en reprend les mots, donnant clairement à entendre que dans la continuité même des promesses anciennes, le peuple de la Nouvelle Alliance, né de la Pâque du Christ, est constitué par le don de l'Esprit. Le chapitre 19 du livre de l'Exode est donc une théophanie. Il dit une manifestation de Dieu. Le vent et le feu et la voix du tonnerre accompagnent cette manifestation. Ils en sont le signe. Le texte des Actes des Apôtres reprend ces signes indicateurs, précisément, de la présence et de la manifestation de Dieu. De son intervention aussi, donc toujours dans le livre de l'Exode, chapitre 19, versets 16 et 18. Le langage des Écritures qu'utilise Luc dans son récit invite le lecteur à ne pas prendre au pied de la lettre les signes qu'il met en scène. Mais il alerte aussi, et surtout, le lecteur sur l'accomplissement de cette manifestation de Dieu, de la promesse. Luc l'indique d'ailleurs de façon claire, dès l'ouverture du récit. Comme s'accomplissait, dit-il, le jour de Pentecôte. Luc aime ce verbe. Il l'utilise dès le prologue de son évangile, puis encore lorsque Jésus parle à Nazareth, dans la synagogue, à l'ouverture de son ministère. L'inscrivant ici, dans le début du récit de Pentecôte, il le dit d'un mot. Ce qui s'inaugure ici est l'accomplissement de la promesse et du projet de Dieu. Luc le signifie encore lorsque, par la bouche de Pierre, il affirme la réalisation de la promesse de l'Esprit qu'annonçait le prophète Joël pour les derniers jours. On peut se référer à Joël chapitre 3, verset 15. La mention des derniers jours signale dans la Bible l'ouverture des temps eschatologiques, ceux de la fin des temps et de la réalisation définitive du salut promis par Dieu. Les apôtres, donc, découvrent que l'Esprit-Saint est la source d'une vie nouvelle et que cet Esprit n'est pas seulement une lumière, une force, une conviction, mais une personne. Ils font ce jour-là à Jérusalem beaucoup de conversions, car ils peuvent enfin s'adresser à tous. ce que nous venons d'entendre, Emmanuel, c'est la séquence de Pentecôte dont je souhaitais parler aujourd'hui. Mais je crois que vous avez juste avant une question précise.
Tout à fait, Martine, vous faites bien de préciser ce chant. Alors, à quel moment de l'année liturgique se situe la Pentecôte ?
Alors, comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie du monde, mais au contraire, à proclamer clairement et librement la bonne nouvelle du salut. Parce qu'il trouve sa source dans l'événement de la Pentecôte, le sacrement de la confirmation est souvent célébré le jour de cette fête. Au cours de la célébration, donc, l'évêque impose les mains sur chacun des confirmants, manifestant par ce geste le don de l'Esprit. Et donc, au niveau liturgique, puisque c'était le but de votre question, la Pentecôte intervient à peu près au milieu de l'année. Celle-ci commence par l'Avent, suivie du Carême, puis du temps pascal. On entre ensuite dans le temps ordinaire, qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de grande fête, hein, puisque ensuite il y a la Sainte Trinité, la fête Dieu, Saint Sacrement, Saint Jean-Baptiste, etc. Donc, cette liturgie de Pentecôte se trouve bien au milieu de l'année.
Mais alors, seulement sur les liturgies, Martine, lors de la messe de Pentecôte, il y a après la deuxième lecture la séquence, mais qu'est-ce que c'est ?
Alors justement, nous venons de l'entendre préalablement à votre question sur l'année liturgique. Alors le mot « séquence » peut être inhabituel. Celui-ci signifie « suite ». Plus précisément, suite de l'Alléluia ou du verset de l'Alléluia. Donc qui précède la lecture de l'Évangile et la proclamation de l'Évangile. Alors, c'est un chant du répertoire grégorien du Moyen-Âge. Pourquoi le chanter, vous me direz ? Car c'est une prière qui nous exprime en mode chant notre foi en cette personne de la Sainte Trinité, l'Esprit-Saint. La certaine lenteur avec laquelle nous le chantons exprime ce que nous faisons à la messe. Se mettre dans le temps de Dieu, rapide de temps en temps ou doux et calme à d'autres. Le latin nous donne le ton de ce tempo, même si nous ne connaissons pas bien cette langue. Nous demandons au Saint-Esprit de venir faire son œuvre d'unification en notre cœur chaotique. Un texte, une langue et un tempo sont de cette tradition de l'Église qui nous apporte, notamment par ce biais original, une attitude de prière. Qui est l'Esprit-Saint ? Il est consolateur, hôte très doux, lumière. Mais que fait-il ? Il donne ses 7 dons sacrés et vient en même temps. Il lave, adoucit, guérit, assouplit, mais aussi réchauffe, rend droit et mène de sa toute puissance vers la joie éternelle. Mais, vous me direz, quand le fait-il ?
Quand le fait-il ?
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. La séquence tirée du mot latin « sequentia » est un poème, en fait, chanté intégré à la liturgie catholique romaine, initialement donc lié au développement de l'Alléluia et issu de la liturgie locale. Contrairement au sens initial, selon la liturgie actuelle, celle-ci précède l'Alléluia, tandis qu'au Moyen-Âge, la pratique avant l'Alléluia et l'Évangile était également fréquente. D'où le terme s'emploie parfois sans distinction stricte avec la prose indiquant précédemment. Historiquement, par deux fois, des réformes liturgiques limitèrent considérablement son usage. La première, après le Concile de Trente, n'en adopta officiellement que 4 puis 5. Depuis la seconde réforme, celle du Concile Vatican II, seules 4 séquences sont en usage dans la liturgie officielle pour les fêtes de Pâques, de Pentecôte, de la fête Dieu, ainsi que de Notre-Dame des Douleurs. La fonction de la séquence Yesirée fut modifiée lors de cette réforme. Mais en dépit de ces modifications, certaines séquences anciennes sont encore chantées. Alors je dirais pour terminer cette émission, Imanol, et pour amener le refrain qui va clôturer ce thème de Pentecôte, je dirais que l'histoire avance avec ses échecs et ses réussites. Dans toutes les situations, des personnes et des groupes choisissent la non-violence, cherchent la justice, vivent la gratuité, servent les plus souffrants et gardent une forte espérance. Une certitude bouscule. Une certitude, Imanol, j'insiste, bouscule l'histoire. La vie ne peut pas perdre puisque Dieu s'engage avec nous. Et je conclurai en disant « L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. » C'est une référence à la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5.
Merci beaucoup Martine, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre volet de Chanter pour le Seigneur dont le thème sera...
La Sainte Trinité.
Super, mais merci beaucoup Martine et on dit au revoir à tous nos auditeurs.
Merci Manol et au revoir à tous et à la semaine prochaine.
C'était Chanter pour le Seigneur. En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.